Il y a ce cliché tenace, presque une blague de machine à café dans les directions marketing d'aujourd'hui. C'est l'idée que TikTok, bah, c'est juste une plateforme pour les ados qui font des chorégraphies dans leur chambre, quoi.
Ouais, le fameux bouclier parfait pour ne rien faire.
C'est exactement ça. Pendant super longtemps, ça a permis à des centaines de marques de regarder ailleurs, de justifier un peu leur immobilisme. Sauf que, quand on lit les sources de notre analyse aujourd'hui, la réalité de 2026, elle dresse un tableau, mais alors radicalement différent.
Complètement.
TikTok, c'est plus du tout une cour de récréation. En fait, c'est la toute dernière grande plateforme sociale qui offre encore une portée organique locale massive, et surtout totalement gratuite.
C'est un truc de fou quand on y pense.
Grave, pour un réseau de franchises, de 50 à 500 points de vente par exemple, c'est un peu comme découvrir un immense panneau d'affichage premium, genre illuminé en plein centre-ville, gratuit, mais que tous les commerçants du quartier ignorent obstinément en passant devant tous les matins.
Alors, l'image du panneau d'affichage, elle est frappante. Mais il faut tout de suite y ajouter un compte à rebours, tu vois?
Comment ça, un compte à rebours?
Bah, la gratuité et cette visibilité démesurée qu'on observe là, c'est pas des acquis définitifs. En fait, c'est une anomalie algorithmique temporaire, une fenêtre de tir qui rappelle très précisément ce qui s'est passé avec Facebook il y a plus de 10 ans.
Ah oui, l'âge d'or de Facebook où tout le monde voyait tes posts.
Voilà. La fenêtre, elle est grande ouverte aujourd'hui, mais la plateforme va inévitablement resserrer la vis pour imposer un modèle purement payant. Donc l'urgence, elle est réelle, la fenêtre va se fermer.
Donc faut y aller à fond là, tout de suite.
Alors oui, mais attention. Et c'est là qu'il faut vraiment analyser les choses froidement. On ne peut pas débarquer sur cette plateforme avec nos vieux réflexes d'agence, tu vois.
Les fameux costumes cravates qui font de la strat depuis Paris en Fancy.
C'est ça, les directions marketing qui essaient d'appliquer des méthodes de consultants traditionnels, avec des comités de validation interminables, des budgets de prod dignes d'un film de cinéma, bah, elles se prennent un mur. TikTok, ça exige une approche de terrain, un vrai pragmatisme de commerçant indépendant. On est très très loin des standards ultra lissés des sièges sociaux, quoi.
De cette opportunité. Les directeurs marketing qui nous écoutent, ils ont besoin de rationaliser.
Bien sûr.
Et dans les documents qu'on a épluchés pour ce dossier, ce qui explique ce basculement, c'est la mécanique même de TikTok. Si on décortique un peu le moteur sous le capot, qu'est-ce qui rend cette appli si redoutable pour le commerce local?
Ben en fait, tout repose sur une évolution majeure de leur algorithme, et plus particulièrement sur la géolocalisation.
D'accord.
Pour comprendre pourquoi c'est une vraie révolution, il faut regarder comment TikTok teste un contenu. Contrairement aux anciennes plateformes, TikTok ne montre pas d'abord une vidéo à tes abonnés.
Attends, il la montre à qui alors?
L'algorithme, il sélectionne un échantillon test d'utilisateurs qui ne connaissent pas du tout la marque. Mais c'est là le génie qui se trouve physiquement très proche de l'endroit où la vidéo a été postée.
Ah ouais, la proximité géographique devient le critère numéro un en fait.
Exactement. Le système croise le signal GPS du téléphone au moment du poste, la langue parlée et les premières interactions locales. Donc disons qu'une boulangerie publie une vidéo. Si 10 personnes qui sont dans un rayon de 2 km regardent la vidéo jusqu'au bout,
Le fameux watch time.
voilà, bah l'algorithme se dit OK, c'est ultra pertinent localement et paf, il déclenche une distribution massive à l'échelle du quartier, puis de la ville.
C'est un changement de paradigme total. Si je devais faire une analogie, disons que Facebook ou Instagram, historiquement, ça fonctionnait comme un club privé, quoi.
C'est une bonne image.
Il fallait d'abord convaincre les gens de prendre la carte de membre, de s'abonner à ta page, pour avoir le droit d'espérer leur parler après. Dans nos sources, ils appellent ça le social graph, alors que TikTok, du coup, c'est une immense place publique, le content graph.
Exactement ça.
Le meilleur artiste de rue, il attire la plus grande foule instantanément, même si personne connaissait son nom 5 minutes avant. L'algorithme, il se contente juste de mesurer l'attroupement, en fait.
C'est la traduction parfaite du phénomène. Et pour continuer sur ton analogie, aujourd'hui sur le club privé Meta, la portée organique d'une page locale, bah, elle est cliniquement morte.
Ouais, c'est fini!
Faut pas se leurrer, sans sortir la carte bleue, une publication Facebook touche péniblement entre 2 et 5% d'une communauté qui existe déjà. C'est comme hurler dans une cave vide.
C'est terrible pour les petits commerçants.
Alors que sur cette nouvelle place publique qu'est TikTok, un commerce peut exploser sans aucun historique. Et attention, les ordres de grandeur en France, c'est devenu colossal. On parle de 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
15 millions. Ce qui tord définitivement le cou au mythe de l'ado qui danse, on est bien d'accord. D'ailleurs, les notes de notre dossier soulignent un chiffre hyper intéressant. 41% de ces utilisateurs ont entre 25 et 44 ans.
Et ça, c'est le cœur de cible absolu du commerce de proximité.
Mais grave. C'est les adultes qui ont du pouvoir d'achat, quoi. Ceux qui décident où la famille va manger le vendredi soir, qui prennent un abonnement à la salle de sport, qui achètent une machine à laver. Mais au-delà de l'âge, moi, il y a une stat qui m'a scotché. C'est la durée d'attention.
Ah oui, les fameuses 52 minutes.
Mais c'est délirant. 52 minutes de temps de session quotidien moyen par utilisateur.
C'est vertigineux. Pendant presque une heure par jour, l'utilisateur, il est plongé dans un flux ininterrompu. Il est captif, l'écran prend toute la place, le niveau d'attention est maximal, tu vois. C'est pas comme un fil Facebook que tu fais défiler du bout du pouce en attendant le bus.
Ouais, c'est ultra immersif. Ce qui m'amène à une vraie question structurelle. Pourquoi les grandes marques, avec leurs budgets colossaux, elles rament autant pour capter cette attention, alors que, je sais pas, le gérant d'une franchise de burgers du coin, il cartonne juste avec son smartphone?
L'authenticité.
C'est ce que disent les sources, ouais. Mais faut aller plus loin que ce mot valise d'authenticité. Psychologiquement, comment on explique qu'une vidéo un peu tremblotante, sans ring light, tournée en 10 minutes à l'ouverture du shop, elle surperforme face à un spot à 10 000 balles validé par 3 agences?
C'est une histoire de radar. Les consommateurs d'aujourd'hui, et surtout cette génération, ils ont développé un radar anti-publicité d'une sensibilité extrême.
Un détecteur de bullshit, quoi.
Exactement. Dès les premières millisecondes, s'ils détectent une lumière un peu trop studio, un cadrage parfait ou une voix off de pub télé, le cerveau classe ça direct en publicité institutionnelle. Et la sanction, elle est immédiate.
Swipe, suivant.
Voilà, le pouce balaye l'écran. La perfection esthétique, en fait, ça crée de la méfiance aujourd'hui. Alors que l'imperfection, ça crée de la proximité.
Donc voir un vrai boulanger qui montre sa pâte à pain à 5 heures du mat.
Ouais, l'entendre bafouiller un peu, rigoler avec son apprenti, ça désarme complètement le radar anti-pub. Le client, il a l'impression d'entrer dans les coulisses, d'avoir un traitement VIP presque. Il voit une réalité brute. Et cette rugosité, bah, c'est une barrière à l'entrée que l'argent du siège ne peut tout simplement pas acheter.
C'est génial! Donc, le super pouvoir d'un point de vente franchisé, c'est précisément de ne surtout pas ressembler au siège de la multinationale.
C'est exactement ça.
Ça permet des situations complètement folles qu'on lit dans le rapport. Genre, un nouveau resto franchisé ouvre un mardi, il poste sa toute première vidéo le mercredi matin, avec les cuisines en panique pour le premier service, et à midi, t'as une file d'attente sur le trottoir.
Avec zéro abonné au départ. Hein.
Zéro, juste parce que l'algo a poussé la vidéo à 5000 personnes du quartier dans la matinée. Cette découvrabilité-là, sans communauté préexistante, on n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Internet.
Et c'est justement ça qui donne des surfroids de direction marketing centrale, parce qu'il faut lâcher prise. Le contrôle strict de l'image de marque, il doit s'assouplir pour laisser respirer cette identité locale. C'est un vrai choc culturel pour eux.
Bon, abordons l'aspect purement opérationnel. Parce que la théorie, c'est bien, mais l'objectif d'une boîte B2B, c'est de faire du trafic en magasin. Et on va pas demander aux gérants de devenir des Spielberg, quoi.
Surtout pas.
Si on regarde les 5 stratégies terrain du dossier, la toute première action, la fondation absolue, c'est un truc technique tout bête. La géolocalisation systématique.
Ouais, c'est le prérequis non négociable. Et tu serais surpris du nombre de franchises qui se plantent là-dessus. C'est l'erreur numéro 1.
Ils oublient de mettre la ville en tag.
Pire, soit ils oublient, soit ils taguent la ville du siège national. T'imagines ? Pour que l'algorithme comprenne qu'il doit cibler le quartier, il faut impérativement taguer l'adresse précise du magasin sur chaque vidéo.
Ça change vraiment la donne, ce petit tag.
Les tests le prouvent. Le simple ajout de 7 étiquettes locales, ça booste la distribution organique de 20 à 40% dans la zone de chalandise. C'est un levier massif, gratuit, et ça prend littéralement 3 secondes de plus au moment de poster.
D'accord. Stratégie 2, maintenant. Comment accélérer ? Parce que payer des égéries nationales pour de la pub locale, c'est mort. On parle de faire appel aux créateurs locaux, les fameux micro-influenceurs.
Exactement. L'influence a muté, elle aussi. On s'en fout de l'influenceur parisien avec ses 2 millions d'abonnés. Ce qu'on veut, c'est le gars qui teste des restos à Bordeaux ou la fille qui parle de fitness à Grenoble.
Ceux qui ont entre 2 000 et 50 000 abonnés, quoi.
Voilà. Leur audience, elle est presque exclusivement locale. Et financièrement, c'est imbattable pour un franchisé. Une collab, ça se négocie entre 100 et 500 euros. Parfois, juste contre un repas offert ou un produit gratuit.
Et le taux de conversion doit être bien meilleur, non ?
Largement. Parce que c'est perçu comme le conseil d'un voisin sympa, pas comme une affiche 4x3.
Top. Stratégie 3. On passe sur du payant, mais malin. Les TikTok Ads Géo. Si on veut saturer une zone, par exemple pour une ouverture de boutique.
C'est ça. Historiquement, le ciblage local sur les réseaux sociaux, c'était un peu à la louche. Aujourd'hui, avec les ads locaux sur TikTok, tu traces un rayon hyper précis de 5 à 10 km autour de la porte de ton magasin.
Ah ouais, c'est chirurgical.
Et pas besoin d'un budget de fou. Avec 300 à 500 euros par mois et par point de vente, combiné à l'organique et au micro-influenceur, tu crées un encerclement parfait. Le client du quartier y voit ta boutique partout.
Ok, la logique est implacable. Par contre, je t'arrête sur la stratégie 4. Les rapports parlent d'UGC, donc le contenu généré par les clients, en mettant des QR codes en caisse pour qu'ils filment leur expérience.
Ouais.
Faut qu'on soit réaliste deux secondes. Le client qui vient s'enfiler un burger à la pause déj ou acheter une perceuse, il n'a pas le temps. Il va pas sortir son tel, filmer, faire un montage avec une musique, juste parce qu'il y a un bout de plastique avec un QR code sur le comptoir. La friction est énorme.
Et ton scepticisme, il est totalement justifié. Le QR code posé là, qui attend passivement, c'est le truc classique pondu dans un bureau parisien. Sur le terrain, ça fait zéro vue.
On est d'accord. Ça marche pas.
Ça marche pas tel quel. L'astuce, et c'est la stratégie des meilleurs franchisés, c'est la transaction immédiate. Tu demandes pas une faveur, tu proposes un deal.
Genre on paye le client.
Indirectement. Le vendeur en caisse, il dit « Si vous postez une petite vidéo maintenant avec notre hashtag, je vous offre le dessert, ou je vous fais moins 10% tout de suite.
Ah. »
La carotte. Exactement. La friction psychologique disparaît d'un coup. Et pour le franchisé, c'est le casse du siècle. Un dessert, ça lui coûte rien en coût de revient. Et en échange, ce client va exposer la marque de façon ultra organique à tout son réseau de potes locaux. C'est le bouche à oreille sous stéroïdes.
Vu comme ça, ouais, c'est redoutable. Et la cinquième stratégie mentionnée dans les sources, c'est la réactivité à l'actu du quartier, les événements locaux.
Le commerce local vit au rythme de la rue, pas d'un calendrier édito prévu 6 mois à l'avance par le siège. S'il pleut depuis 3 semaines et que le soleil sort enfin un vendredi à 16h...
Le gérant sort le téléphone.
C'est ça, il filme sa terrasse qu'il est en train de monter en disant « Les gars, on vous attend pour l'apéro, le soleil est de retour ». Ça cartonne parce que ça résonne avec ce que vivent les gens du quartier à l'instant T.
C'est brillant. Mais... là, on arrive à l'éléphant dans la pièce. Le défi multi-point de vente.
Ah, le gros morceau!
Parce que on voit très bien un restaurateur indé, un peu geek, faire tout ça tout seul. Mais un directeur marketing réseau, qui gère 150 franchisés, la réalité d'un patron de franchise, c'est les arrêts maladie à 6h du mat, les frigos qui lâchent, les livraisons en retard. On va pas leur demander de faire des trends TikTok entre deux services.
C'est totalement impossible. Et les chiffres sont cruels. Dans notre étude, 85% des franchisés ne publient jamais, au grand jamais, le contenu que le siège leur envoie.
85%? Mais c'est une perte d'argent monumentale pour le siège.
Mais le siège, il s'épuise. Ils font des beaux emails avec des liens WeTransfer, des kits complets. Mais pour le franchisé, devoir télécharger le truc, l'enregistrer sur son tel, ouvrir l'appli, copier la légende, chercher les hashtags... c'est une usine à gaz. Le mail part direct à la corbeille.
C'est là que nos documents présentent une solution assez bluffante, un SaaS B2B qui s'appelle npost.ai. Et le détail qui tue, c'est que c'est pensé par un ancien multi-franchisé, Franck-Olivier Chabat, qui a eu jusqu'à 18 magasins. Donc il connaît le terrain.
C'est pour ça que l'outil enlève toute la friction opérationnelle. Mais surtout, et c'est le point technique crucial pour 2025 et 2026, l'outil règle le danger numéro 1. La duplication.
Oui, l'anti-duplication native. Pourquoi l'algorithme déteste ça au fait qu'un siège donne la même vidéo à tout le monde?
Imagine, t'es l'IA de modération de TikTok. Le siège national envoie une super vidéo à ses 200 franchisés. Les 200 publient le fichier exact au même moment sur 200 comptes différents.
Ah, ça ressemble à une attaque de bot.
Exactement. Le système voit 200 fois le même code source visuel. Il se dit c'est du spam, c'est artificiel. La sanction, c'est le shadow ban. Tes vidéos sont bridées, elles font zéro vue et tu sais même pas pourquoi.
L'horreur. Donc la vidéo devient un fantôme. Comment NPost contourne ce mur?
La techno agit comme un traducteur. Le siège met sa vidéo maîtresse dans NPost et le système va générer automatiquement des variations uniques pour chaque franchisé. C'est imperceptible à l'œil nu, mais pour la machine, les métadonnées et les micropixels sont différents.
Donc pour TikTok, ce sont 200 vidéos 100% originales et exclusives.
Voilà. Ça préserve la virginité algorithmique du compte local. Zéro filtre anti-spam.
C'est d'une intelligence folle. Et les résultats sur le terrain? Ah bah, il y a ce cas concret dans le dossier, la franchise de restauration avec 12 points de vente. Ils partaient de zéro, non?
De zéro? Et en utilisant cette anti-duplication via NPost, en 3 mois, ils ont cumulé 280 000 vues organiques sur les comptes de leur resto, sans dépenser un centime en pub, avec un taux d'engagement stable à 7,2%.
Mais le plus impressionnant, c'est l'impact physique. Trois de ces restos ont fait plus 18 à 25% de trafic physique le midi. Gagner un quart de client en plus juste par l'organique, c'est énorme.
C'est énorme et surtout, ça n'a pas épuisé les gérants. Parce que le flux de travail, le système N-Start de la plateforme, y prend 40 secondes.
Ah oui, comment ça se passe pour le franchisé, concrètement?
Le siège prépare tout prêt, la vidéo variée, le texte, les bons hashtags locaux. Le franchisé reçoit juste une notif push sur son téléphone. Il clique, il voit le truc tout prêt, il fait « valider ». Et c'est publié.
En un tap, l'histoire est pliée.
40 secondes de son temps pour environ 59 euros par mois par point de vente.
C'est clair que la friction est pulvérisée. D'ailleurs, les notes suggèrent aux directeurs marketing qui nous écoutent d'aller voir la démo par eux-mêmes sur npost.ai, fraudemander démo. Parce que ce genre de fluidité, ça se teste en vrai sur un réseau.
Absolument, c'est la seule façon de réconcilier la stratégie nationale et l'algo local.
Bon, on a fait le tour de la méthode, mais en conclusion de notre exploration, il y a une idée assez provocatrice qui émerge de toutes ces données. Un truc plus philosophique sur la façon dont on explore nos villes aujourd'hui.
Ouais, on assiste à une vraie mutation tectonique là.
C'est-à-dire ?
Pendant 10 ans, le commerce local a été dominé par la carte, Google Maps. C'est hyper statique, tu cherches à un coiffeur, tu vois un point rouge sur la carte, tu lis 3 avis texte, tu regardes la photo de la devanture et basta. C'est froid, c'est utilitaire.
L'annuaire du 21e siècle, quoi.
C'est ça. Sauf que TikTok ne remplace pas que Facebook. C'est en train de devenir le nouveau moteur de recherche visuel et vivant du commerce de proximité.
La nouvelle génération cherche plus sur Google ?
De moins en moins. Ils ouvrent TikTok et tapent « Meilleur burger Nantes » ou « Nouveau brunch Lyon ». Et le résultat qu'ils attendent, c'est pas une carte, c'est une immersion. Ils veulent entendre la musique du resto, voir si l'équipe a l'air sympa, capter l'énergie du lieu en vidéo.
Mais du coup, ça pose une question de survie pour les franchises. Si ton point de vente, c'est juste un point rouge silencieux sur une carte, et qu'en face, le concurrent indépendant, il a une vidéo vivante qui te montre ses cuisines...
T'es mort. Pour cette génération, un commerce qui n'a pas de visage en vidéo, c'est perçu comme une coquille vide, une boutique obsolète. L'absence de mouvement numérique devient la preuve de ton obsolescence physique. S'ils ne ressentent pas l'âme de ton commerce en 15 secondes sur l'écran, ils vont chez l'autre.
On en revient au panneau d'affichage du début. C'est pas juste un espace pub qu'on ignore. C'est littéralement la nouvelle grande rue commerçante de la ville qui s'est déplacée là-bas. Et le choix pour les réseaux, il est simple. Est-ce qu'on ouvre une vitrine dans cette nouvelle rue ou est-ce qu'on reste un point rouge sur une vieille carte?
Voilà, la question est posée.
Eh bien, ça donne matière à réflexion. Merci d'avoir partagé toute cette expertise avec nous.
Avec plaisir.
Et pour ceux qui ont des réseaux à gérer, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce matin.